La bande passante.
La bande passante.
Sandrine Straram, Alain Pilot.
2 mars 1991, un musicien sans doute de génie est parti incontestablement, un provocateur, un continuateur, frimeur, hableur, meurt. Serge Gainsbourg vient de nous quitter, les radios diffusent en boucle ses chansons les plus connues, les chaînes de télé proposent des émissions spéciales et nos deux invités sont alors minés, Bertrand Dical et Pierre Mikhaïlov. Bonsoir.
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 Vous êtes journaliste radio parfois pour la bande, auteur grand spécialiste des musiques populaires et plus particulièrement de la chanson française pour le premier, et écrivain journaliste également pour la bande et ex-guitariste du groupe Les Désaxés, puis pour Jacquenot et compositeur d'une musique de film pour le second. Un mot chacun pour définir Gainsbourg.
Dans ce que vous avez énoncé, par exemple le mot hableur, je le retiens, ça lui va, c'est une des facettes du personnage, je trouve.
Ouais, s'il fallait, un adjectif, je dirais compliqué.
Bertrand, tu publies donc tout Gainsbourg, à la fois biographie, encyclopédie d'un peu plus de 1000 pages. Pierre, en un peu plus de 300 pages, tu nous fais des confidences à la une. Nous allons ce soir certainement découvrir d'autres Gainsbourg, et pas seulement Gainsbourg. Gainsbourg à la fois musicien, écrivain, poète, photographe et réalisateur. Soyez les bienvenus dans votre maison et sa musique atomique à tous les étages.
J'ai une notoriété en tant que personnage, en tant qu'auteur, en tant que compositeur, en tant qu'acteur. C'est très faucheton, ça. Je louvoie sans me mouiller vraiment. On me prête une certaine tenue dans la qualité que je trouve pas évidente.
Des plombes que ça tombe, un monde immonde, ça m'aime.
Around the Bunker, le titre qui donne son nom à cet album de 1975, enregistré entre le 26 novembre et le 2 décembre 1974 à Londres, de Serge Gainsbourg, ex-petit Lucien Ginsberg qui va porter l'étoile jaune pendant la Seconde Guerre mondiale. Certains vont voir là une influence de Bowie ou Marc Bolan de T-Rex. Tu avais envie de l'entendre, ce titre, Bertrand Dical, pour quelle raison?
Parce que Rock Around the Bunker, ça me paraît un des sommets de Gainsbourg, un des sommets pour le texte, un des sommets pour l'écriture, et ça me paraît aussi un des exercices de dévoilement les plus précis, les plus complexes et les plus passionnants qu'il a eu de sa vie, mais aussi un des plus méconnus. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de fans de Gainsbourg qui n'écoutent pas cet album, ou qui le sous-estiment, qui disent oui, c'est intéressant, mais qui l'ont pas souvent écouté. Et c'est un de mes albums préférés parce que il y a juste quelque chose de troublant, c'est que Gainsbourg est un ancien peintre, il ne dessine plus, il ne peint plus. Tiens, soudain, il ressort la plume et l'encre de Chine pour faire un autoportrait en couverture de cet album. Donc, il dessine lui-même sur la pochette de cet album. C'est donc que cet album est certainement un autoportrait. Et Rock Around the Bunker, avec ce que ça a de choquant, faire des blagues avec les nazis, faire des blagues avec Hitler, c'est l'album dans lequel Gainsbourg raconte l'étoile jaune, raconte ce qu'on appelle un traumatisme, incontestablement, qui est le fait d'avoir été un enfant juif dans la Seconde Guerre mondiale en France. Et en même temps, il transcende, il va plus loin et il arrive à choquer les gens qui sont censés être les plus proches de lui. C'est-à-dire que des journalistes rock, de gauche, ne supportent
supporte pas qu'on fasse des blagues avec Hitler. On plaisante pas avec les SS.
On colle le mot nazi au mot rock.
Voilà. Et puis, il fait aussi quelque chose qui va continuer aujourd'hui à choquer. Moi, je me souviens quand Julien Doré, sur son premier ou deuxième album, a fait une reprise de SS in Uruguay. Il y avait un certain nombre de radios et de télé qui n'étaient pas tout à fait ravis que Julien Doré vienne chanter SS in Uruguay, qui est une chanson qui fait des blagues avec des criminels de guerre. Et c'est drôle comme aujourd'hui, on est 40 ans après cet album, c'est encore le dernier album, enfin c'est un des albums les plus borderline aujourd'hui encore de Gainsbourg.
Album qui a failli s'appeler Le silence du pape. Un quart de siècle après sa disparition, des artistes aux journalistes, tous ont envie de nous présenter leur Gainsbourg. Quelle était ton attention avec ce Gainsbourg confidentiel, Les mille et une vies de l'homme à tête de chou, Pierre Mikhaïlov?
Mais mon attention, c'était de faire entendre la voix de Gainsbourg. J'ai passé 3 semaines à éplucher les archives de l'INA et j'ai essayé de chercher à chaque fois que j'avais envie...
L'Institut National de l'Audiovisuel.
Voilà, et à chaque fois que j'avais envie d'illustrer une idée, une facette du personnage, je tenais avant tout à faire entendre sa voix. Donc voilà, j'ai passé 3 semaines, 8 heures par jour, en compagnie de Serge Gainsbourg, en quelque sorte, en visionnant tout ce qui est archivé sur lui depuis 1959 jusqu'à 1991 quasiment. Et j'avoue qu'au bout de ces 3 semaines, j'avais l'impression que Gainsbourg était une sorte de proche, presque d'ami. J'avais l'impression de le connaître.
Et toi, Bertrand Dical, avec cet intitulé ambitieux mais à la hauteur, tout Gainsbourg.
Ben, en fait, ce qui est intéressant avec Gainsbourg, c'est pas seulement l'œuvre, c'est la compréhension de cette œuvre. Et c'est drôle, on en a parlé il y a quelque temps, parce que je ne me cache pas que mon maître dans ce métier a toujours été Umberto Eco depuis son Essai lector in fabula. Et c'est vrai que je trouve au moins aussi intéressant ce que dit Gainsbourg, ce qu'on entend de Gainsbourg. Et c'est vrai que si on veut essayer de comprendre tout à fait l'œuvre, la carrière de Gainsbourg, il faut aussi essayer de comprendre le mythe. Et c'est vrai qu'il faut, voilà, je me suis dit, un des meilleurs outils, c'est la loupe et le pinceau à un poil, et tout écouter, tout réécouter, se demander pourquoi tout a été écrit, comment tout a été écrit, ce que ça raconte, de quoi ça parle, de qui ça parle, donc aller chercher... les références, les influences, les private jokes, les emprunts dans tout Gainsbourg, y compris la musique de film, y compris son roman, y compris les 4 films qu'il a réalisés, y compris les pubs, y compris voilà, des choses parfois marginales, mais dans lesquelles il se dévoile. Et c'était plus un exercice de biographie d'une œuvre qu'un exercice de biographie d'un artiste.
25 ans après la disparition de Serge Gainsbourg dans la bande aujourd'hui. Serge Gainsbourg et Jane Birkin, Je t'aime moi non plus. Ce n'est pas que lui qui remporte ce succès. Alors, il a 50 ans à ce moment-là. Hein.
Ah non, pas encore.
Il a 41 ans.
41, d'accord. 41. Ouais, je pensais qu'il j'avais lu 50 ans, ça m'étonnait aussi beaucoup.
50 ans, c'est l'époque de Zarm, etc. Là où il devient vraiment ultra populaire.
Et là, il a du succès avec ce titre-là, mais c'est plutôt Birkin qui remporte ce succès. Comment il le vit,
en fait, Pierre-Michel? Ce morceau, il est aussi fait pour mettre en valeur la jeune femme qu'il vient de rencontrer, dont il vient de tomber amoureux. À la base, on connaît un petit peu l'histoire. C'était Brigitte Bardot qui devait l'interpréter. Il l'avait enregistré. Puis Brigitte Bardot avait refusé que le titre sorte parce qu'elle était mariée à l'époque avec un monsieur milliardaire, mais surtout très jaloux. Donc voilà, Jane le réenregistre. Donc c'est un petit peu le disque qui marque le début de leur relation. Et puis je pense qu'à ce moment-là, Serge avait envie de la faire connaître au public français. Et puis, miracle, ce morceau va être un tube monstrueux dans toute l'Europe, alors que Gainsbourg n'avait encore obtenu jamais aucun succès en tant qu'artiste avec ses propres disques lorsqu'il les interprétait lui-même.
Gainsbourg, que Birkin va appeler Bourguignon, Bertrand, la première rencontre n'est pas merveilleuse, je crois. Hein.
Oui, elle croit d'abord que c'est Serge Bourguignon, un cinéaste nouvelle vague totalement oublié qui avait eu un prix à Cannes l'année d'avant, donc elle comprend à moitié le nom, elle se dit, ben tiens, ça doit être Serge Bourguignon, ce français si branché. Et en fait, la rencontre se passe évidemment mal. D'abord parce que Gainsbourg, on lui avait fait miroiter une autre actrice, et puis Gainsbourg, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas complètement à l'aise au cinéma. Gainsbourg est pas un très bon acteur. C'est une belle gueule, c'est un personnage intéressant pour un réalisateur, mais c'est pas un très très grand acteur, c'est pas un très bon acteur, et il est quand même très 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 tendu sur les plateaux de cinéma. Et sa première rencontre avec Birkin et les premiers jours de travail avec Birkin sont horribles, sont réellement très 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 pénibles, parce que il voit une jeune fille pas très 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 belle. Il fait partie de ceux qui la croient un peu survendu, parce qu'à l'époque, Birkin, elle n'est connue que par le petit scandale qu'il y a eu sur Blow Up, parce que sur Blow Up d'Antonioni, on la voit brièvement, elle doit passer 3 minutes à l'écran, mais dans ces 3 minutes, il y a 1 seconde 15 dans lesquelles on voit ses poils pubiens, et elle était devenue Jan Pubis Birkin pour la presse anglaise. Et en fait, aller tourner un film en France, c'était pour elle une espèce de rédemption. Et puis c'est la femme de John Barry, qui est le compositeur et arrangeur des musiques de films de James Bond, enfin l'arrangeur des musiques de films de James Bond. Et donc il y a un mélange de répulsion, méfiance de Gainsbourg au départ, et puis évidemment très très vite une histoire d'amour, et très très vite une histoire d'amour qui est aussi une histoire professionnelle. Et c'est vrai que la rencontre de ces deux professionnels qui sont l'un et l'autre à des moments charnières, elle qui change de pays, lui qui est quand même extrêmement dépité de la fin de son aventure avec Bardot, il pense à un moment faire de Je t'aime moi non plus quelque chose d'autre, parce que c'est à ce moment-là il fréquente beaucoup Mireille d'Arc l'a dit, Jane Birkin l'a révélé aussi, l'a confirmé des années plus tard. Il était parti pour enregistrer Je t'aime moi non plus avec Mireille d'Arc, ce qui aurait été un succès, certainement, un scandale. Et puis finalement, il l'enregistre avec Birkin. Et c'est le début d'une histoire qui est peut-être encore plus belle que s'il avait pris une vedette déjà célèbre, Bardot ou Mireille d'Arc.
Je t'aime moi non plus, qui sera aussi le titre de l'un de ses premiers longs métrages. 1967, c'est notamment l'année d'une comédie musicale.
Ah, si vous étudiez les lyrics de la comédie musicale que j'ai faite pour Anna Karina, tout est négatif. Il n'y a absolument rien de sentimentalement positif.
Qu'est-ce autre chose que la vie des sens, qu'un mouvement alternatif qui va de l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit. De l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit. Je m'en fous, ta gueule, laisse-moi finir. L'âme flottant, toujours incertaine, entre l'ardeur qui se renouvelle, l'ardeur qui se renouvelle. Et l'ardeur qui se ralentit, l'ardeur qui se renouvelle, et l'ardeur qui se ralentit. Oh, je m'en fous, mais dans ce mouvement perpétuel, de l'appétit au dégoût, de l'appétit au dégoût, et du dégoût à l'appétit. On ne laisse pas de se divertir par l'image d'une liberté errante, tu sais qui c'est, non? Me souhaite.
Bravo, tu as raison funèbre?
Ah non. Parce que moi je suis assez cynique pour en faire ma ligne de conduite.
Oh, t'es dégueulasse! Dégueulasse, mon vieux!
mieux.
Ouais, ouais, un peu amnésique sur les bords, hein. Voilà où ça mène. Un poison violent, c'est ça l'amour. Un truc à pas dépasser la dose, c'est comme en bagnole. Au compteur 180, à la borne 190, effusion 200. Tiens là, je te donne un conseil qui tient à ta peau. Laisse tomber.
Cours après une ombre, tu vois, et c'est même pas la mienne. Encore elle serait sur les colonnes Maurice. Tu pourrais l'attendre à l'entrée des artistes. Mais elle est insaisissable. Où veux-tu que je la trouve?
Un poison violent, c'est ça l'amour, extrait de la comédie musicale Anna, réalisée par Pierre Koralnik, musique signée Serge Gainsbourg, avec Jean-Claude Brialy, le publicitaire en amouré. Il y a également Anna Carina, Marianne Faithfull et Eddie Mitchell. Le cinéma, c'est l'une des casquettes que l'on connaît beaucoup moins de lui. Pour quelle raison, Pierre Mikhailov?
Bah, pour quelle raison? Parce qu'il a fait des, films assez difficiles. Il a commencé par Je t'aime moi non plus, qui est une relation entre une serveuse de bar androgyne avec un chauffeur de déchargerie homosexuel. Et donc le film raconte leurs ébats dans différents lieux, ébats assez compliqués, assez bruyants. Donc c'est pas des thèmes extrêmement grand public. Le film va presque être interdit aux moins de 18 ans, et puis grâce à une intervention du ministre de la Culture de l'époque, il sera autorisé. Donc à chaque fois que Gainsbourg fait un film, il y a un scandale, il y a un problème avec la critique. Il est incompris. C'est un cinéaste incompris.
Il le disait à l'instant, on l'entendait sur le début de ce morceau.
Voilà. Alors la comédie musicale Anna, c'est autre chose, parce que là il écrit simplement les chansons. C'est vraiment l'œuvre de Koralnik. Et ce qui est joli aussi dans l'histoire d'Anna, c'est qu'il fait cette comédie musicale grâce à Michel Arnaud, qui est une des premières interprètes de Serge Gainsbourg, et qui a toujours gardé une grande fidélité en amitié avec lui, puisqu'elle lui propose de faire cette comédie musicale. Et il était très heureux aussi de travailler avec Anna Carina. Et Gainsbourg, qui a toujours aimé travailler pour les belles femmes, était ravi de travailler pour cette artiste qui est à la base une comédienne, mais qui s'est avérée aussi une sorte de chanteuse naturelle, comme Gainsbourg aime bien les façonner. Et souvent, il a préféré prendre des interprètes vierges qui n'avaient encore jamais chanté et les faire chanter à la Gainsbourg.
Et oui, Bertrand Dical, peut-être quelque chose à rajouter sur le cinéma?
Oui, sur le cinéma, moi je ne dirais pas que Gainsbourg est un cinéaste incompris. Hélas, la critique a souvent compris, Gainsbourg n'est pas un cinéaste. C'est un fou de technique, c'est un fou de photographie. C'est pour ça que c'est un extraordinaire réalisateur de pubs, mais de pubs qui n'ont rien à voir avec son univers. Mais c'est vrai que c'est peut-être l'échec artistique le plus patent de Gainsbourg, qui a réussi à être un immense parolier, un immense auteur, un immense compositeur, un grand arrangeur, mais certainement pas un grand cinéaste.
Que diriez-vous, juste avant les infos, d'une valse de Mélodie ?
Le soleil est rare et le vent aussi, l'amour c'est garoulon de la vie. Le soleil est rare et le bonheur aussi, mais tout bouge au bras de Mélodie. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'entrouvent sur l'infini.
Valse de Mélodie, Serge Gainsbourg, à suivre juste après avoir fait le tour du monde de l'actualité en 3 minutes avec Priscille Lafitte. Serge Gainsbourg, fils de pub, créateur de nouvel hymne national ou encore homme à femme. À tout de suite sur RFI, dans la bande passante.
Aussi, mais tout bouge au bras de Mélodie. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'entrouvent au sud.
La bande passante.
Musique.
Sandrine Straram, Alain Pilot.
Retour de la bande passante sur RFI en compagnie de celui qui est devenu une icône de la chanson, passionné de littérature, de peinture et de luxure, pas dégueu, pour évoquer Serge Gainsbourg disparu le 2 mars 1991, Pierre Mikhaïlov et Bertrand Dical. Rebonsoir à tous les deux.
Rebonsoir.
Rebonsoir.
Vous êtes tous les deux auteurs d'un ouvrage sur cette figure de la chanson, Gainsbourg confidentiel pour le premier et tout Gainsbourg pour le second. Quel est son plus gros succès et son plus gros échec ?
Plus gros succès en single.
Ça sera l'échec pour vous.
C'est évidemment, je t'aime moi non plus. Hein, single, certaines évaluations vont jusqu'à 4 millions d'exemplaires vendus à travers l'Europe. Puis plus grand succès en album, c'est aux armées, etc.
Plus gros échec.
Le plus gros échec, c'est certainement le deuxième album. Celui que personne ne connaît, Gainsbourg numéro 2, avec Mambo Miam Miam, avec Jeunes Femmes et Vieux Messieurs, avec l'Anthracite, avec tout ça. Et il se trouve que il y a peut-être 300 ou 400 exemplaires qui ont été vendus. Et par un hasard phénoménal, un de ces exemplaires a été vendu à ma mère. Et c'est pour ça que j'ai grandi en écoutant ces chansons-là de Serge Gainsbourg.
Il faut aller braquer Bertrand Dical maintenant. Okay. Nous poursuivons cette balade de mélodie qui sonne dans nos têtes de choux, vue de l'extérieur, mais pas que. Soyez de nouveau les bienvenus dans votre maison et sa musique patriotique à tous les étages.
C'est une phrase de Schopenhauer qui m'a fait frapper quand j'étais comme ça, adolescent. Je veux dire un peu imbécile. Seules les bêtes à sang-froid ont du venin.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous, de la tyrannie, l'étendard sanglant.
Aux armes, etc. Titre générique du disque de Serge Gainsbourg, publié en 1979. Pierre Mikhaïlov, c'est avec cet album que tu fais sa connaissance. Qu'est-ce qui accroche l'ado que tu es à l'époque ?
Ce qui accroche l'ado que je suis, c'est une fois de plus une interview de Gainsbourg. Gainsbourg, c'est quand même aussi un génie de l'interview, il faut le dire. Et il y a un article sur lui dans Rock and Folk. Et il parle tellement bien de ce disque, il parle tellement bien de cette rencontre avec les musiciens jamaïcains, l'ambiance des studios de Kingston, comment ça s'est passé, comment les Rastas sont revenus au mixage, danser sur la musique. Ça m'a donné tellement envie d'écouter l'album que je me précipite dans un premier magasin venu et que je l'achète. Et ça devient le premier album de Gainsbourg que j'écoute, voilà, que j'achète au moment de sa sortie. Et c'est un bon début parce que c'est aussi un des sommets discographiques de Gainsbourg. Même si certains aiment moins sa période reggae, c'est vrai que le deuxième album reggae est peut-être un peu moins réussi, mais Aux armes, etc., c'est quand même bourré de belles mélodies, de textes superbes. Donc c'est mon initiation à Gainsbourg.
Opus enregistré donc en Jamaïque avec la célèbre rythmique Sly and Robbie, passée par la bande d'ailleurs, c'est toujours sur RFI.fr, ils nous en ont parlé, avec les choristes de Bob Marley, les Hathaways. Comment expliques-tu, Bertrand Dical, que ce soit un chanteur qui n'ait jamais pratiqué ce rythme qui fasse découvrir le reggae aux Français ?
Parce qu'il y a d'abord un personnage extrêmement important dans la vie et la carrière de Gainsbourg. Il ne veut pas parler, il refuse toute interview et voilà, c'est Philippe Le Richaume. Et Philippe Le Richaume n'a donné que 2 interviews dans sa vie. Et dans une de ces interviews, il raconte un truc, il va voir un groupe au Gibus. Le groupe est en retard, c'est des punks, il est dans une ambiance qu'il déteste, avec des punks, et il déteste les punks, et il trouve ça déplaisant, et puis il y a le DJ qui passe du reggae, et il voit soudain les punks sympas. Et il se dit, cette énergie dingue qu'ont les punks, et qui est quelque chose qui passionne Gainsbourg, soudain ils sont pas disciplinés, ils sont pas domestiqués, mais soudain on comprend qu'il y a quelque chose de pacifique dans les punks. Et c'est pas aussi précis intellectuellement et culturellement que ça, mais il se dit, Voilà Kingston. Il vient de sortir à ce moment-là un album aujourd'hui très sous-estimé, mais qui est un album majeur dans l'histoire du reggae, qui est l'album Bush Doctor de Peter Tosh, qui est un album qui est produit par les Rolling Stones, sur lequel il y a des featuring de Keith Richards et Mick Jagger. Et Larry Shum se dit bon, bah, c'est pas compliqué, ces musiciens-là, on va les prendre. Sly and the Bar, Robbie Shakespeare, Mick et Chung, et tous ces gens-là sont au sommet de leur art. C'est-à-dire que c'est le moment où Sly et Robbie inventent le reggae rockers et ils vont faire avec Gainsbourg ce que personne d'autre ne fera avec eux. C'est-à-dire que plus tard, quand Dylan, quand Grace Jones, quand toutes sortes d'artistes viendront travailler avec Sly et Robbie, ils viendront en disant ben voilà, moi j'ai une maquette, j'ai ma mélodie, j'ai mes harmonies, j'ai mon truc, faites une rythmique derrière. Non, la Gainsbourg, il arrive, il dit bon ben voilà, donc j'ai un truc, là les chœurs chanteront pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, faites ce que vous voulez. Et ils font ce qu'ils veulent. Et bon, il se trouve que par ailleurs, je suis antillais, ça se voit pas à la radio, mais à l'époque, j'étais aux Antilles et cet album aux armes, etc., et peut-être un des 100 ou 200 meilleurs albums de l'histoire du reggae jamaïcain. C'est un album jamaïcain fabuleux, avec un type qui a une façon de chanter, qui a une façon de se comporter avec la voix, j'appellerai pas ça chanter, qui est parfaite pour le reggae de ces gens-là à ce moment-là. C'est vraiment la rencontre d'un groupe de musiciens et d'un artiste qui, à ce moment-là, sont en pleine phase ascendante artistiquement. Et ils font un album génial.
On comprend que chez Gainsbourg, il y a quand même la légende et puis la réalité. Parmi ces femmes, lesquelles ont réellement compté, toujours est-il que certaines l'ont chanté sur, à côté de lui, ou l'ont chanté, ont chanté ses paroles et ses musiques. Écoutez ça.
Quand un amour se meurt, que vous restez des heures et des heures à pleurer, quand vous n'avez de lui, et pour passer la nuit, que les yeux pour pleurer. N'ayons qu'une cible, savoir ce qu'il ne faut pas. Un garçon intègre, bien loin de la pègre, que l'on trouve dans ce milieu-là. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous.
Ça ne me vaut rien.
Ça ne me vaut rien du tout. Déjà éloignés l'un de l'autre, de nous deux, il ne reste que moi. Mais pourquoi, mais pourquoi? Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Une à une, les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Les quelques sous que tu vas gagner, faudra pour ça durement travailler. Encore heureux.
sort désemparé. Suis-je à ce point oublié, à moi-même abandonné?
Une petite oie qui mettait à son étalage les fruits verts de ses 16 ans et les pépins qu'il y avait dedans. Hélas, la boutique était fermée la semaine, le dimanche et les jours fériés.
Ah mon pervers, monsieur sur Henri Miller, dans son tropique du cancer. Donne ce soir la chair de poulette littéraire.
Rock, rocking chair.
Petite fille au sens un, tu m'appartiens. Toute nue sous ton alcôve, salope de peau.
Fais ce que je veux et ce que je peux. Voilà.
C'est en toute innocence que je te dis ça, papa.
Je sais. Tais-toi.
Par ordre d'apparition, Nana Mouskouri, Les yeux pour pleurer, Jane Birkin, Unknown Producer, qui est dédié au producteur Philippe Le Richaume, dont tu parlais tout à l'heure, Bertrand Dical. Serge Gainsbourg avec Catherine Deneuve, C'est petit rien, Brigitte Bardot, Un jour comme un autre, Petula Clark, La Gadou, France Gall, Baby Pop, Isabelle Aubry, No Man's Land, Juliette Gréco, Il était une oie, Isabelle Adjani, Rock and Share, Bambou, Shanghai, et à l'instant, Charlotte et Serge Gainsbourg, Plus doux avec moi. Alors Pierre, Bertrand, légende ou réalité, ce qui est vrai, ce sont des chansons pour elle. Mais quelles femmes ont véritablement compté pour lui?
Bah, elles ont toutes compté, chacune à leur manière. Alors évidemment, certaines ont été plus que sa muse, ont été aussi sa compagne. Mais chaque interprète a été importante pour lui, pour une raison ou pour une autre. France Gall, c'est parce qu'elle lui permet d'avoir du succès au moment des yéyés et d'enfin commencer à vendre des disques. Brigitte Bardot est importante parce que il en est amoureux fou. Jane Birkin est importante aussi puisque c'est la femme avec qui il vit. À chaque fois, c'est des relations importantes. On parlait de Michel Arnaud aussi. Elle est importante parce que c'est la première à vraiment remarquer que Gainsbourg est aussi un compositeur, n'est pas juste un petit pianiste accompagnateur. Donc les femmes ont été très importantes dans sa vie. Alors après, il en jouait. Après, par exemple, avec Catherine Deneuve, il jouait sur l'ambiguïté en laissant entendre que peut-être leur collaboration avait été un peu plus qu'une collaboration musicale, ce que Catherine Deneuve démentait à chaque fois qu'on lui posait la question. Donc il a ce côté comme ça un peu taquin, il aime bien jouer sur l'ambiguïté dès qu'une belle femme est en jeu.
Birkin, donc, avec un non-producer, je disais tout à l'heure, dédié à leur producteur Philippe Le Richaume, Bertrand Dical, l'une des dernières compositions de Gainsbourg. Quelle direction musicale prenait-il les derniers temps?
Alors, on sait par les quelques témoins, notamment les gens qui l'entendent travailler à l'Espérance, l'hôtel-restaurant où il se retire début 91 pour préparer son prochain album, qui semble-t-il doit s'appeler Christian Name Christian, jeu de mots franco-anglais disant prénom Christian. Il est dans une vision assez russe. Il a envie de grandes mélodies, il a envie de piano russe, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Charlotte dira uniquement que les mélodies sont très tristes, mais rien de plus. Il y a manifestement un choix peut-être définitif qui a été fait par les ayants droit de Serge Gainsbourg de ne révéler ni les textes, ni la musique des maquettes du dernier album de Gainsbourg. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il le dit à des témoins, il le dit même à des journalistes. Il a envie de revenir au piano, il a envie de rejouer du piano, il a envie de revenir à ses fondamentaux, mais on n'en sait rien de plus.
On sait aussi qu'il allait probablement enregistrer à New Orleans, donc ça aurait été intéressant.
Oui, c'était même déjà programmé.
Donc ça aurait été intéressant
de. On a le nom des musiciens qui venaient de travailler avec Dylan notamment, des gens qui tournaient autour des Neville Brothers. Ils reprenaient Gary Georgette, le pianiste de ses deux derniers albums. On savait à peu près qu'il allait enregistrer à la Nouvelle-Orléans. Et en fait, il devait le lundi 4 mars apporter les cassettes des démos de ses chansons à Philippe Le Richaume. Ils avaient rendez-vous à 15h le lundi pour que Le Richaume parte aux États-Unis, commencer à travailler, à faire travailler les musiciens sur les maquettes.
Pour séduire ces femmes dont nous parlions tout à l'heure, peut-être leur a-t-il donné ce cours d'éducation sensuelle.
Ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire, je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche, je te veux confiante, je te sens captive, je te veux docile, je te sens craintive, je t'en prie, ne sois pas farouche. Me vient l'eau à la bouche. Laisse-toi au gré du courant, porté dans le lit du torrent, et dans le mien, si tu veux bien, quittons la rive, partons à la dérive, je te prendrai doucement et sans contrainte. De quoi tu peurs, allons, n'aie nulle crainte. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche.
L'eau à la bouche, Serge Gainsbourg sur RFI dans la bande passante, dont 6 de ses chansons commencent par la même formule, remarques-tu, Bertrand Dical. C'est aussi la chanson du générique du film de Jacques Vognol-Valcroz, du même titre, en 1960. C'est un ordre à chaque fois que se écoute.
Oui, c'est assez amusant de se rendre compte qu'il y a comme ça des expressions qu'on retrouve de chanson en chanson. Et Gainsbourg est un auteur de chansons, un interprète de chansons qui veut qu'on l'écoute. C'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui le texte est vraiment central. C'est vraiment des chansons qui veulent dire quelque chose. Et en ça, il est pas du tout d'une école jazzante, il est pas du tout d'une école de la chanson légère. Et c'est pour ça que quand il fera des chansons pour les yéyés, il sera pas du tout comme Charles Aznavour. Charles Aznavour, qui est à peu près de sa génération, qui a à peu près le même bagage musical que lui, fait des chansons pour les yéyés, L'amour c'est comme une cigarette, Retient la nuit, enfin des choses comme ça, qui sont des vraies chansons de yéyés, faites pour être chantées par des gamins de 20 ans. Gainsbourg, quand il fait des chansons pour les yéyés, c'est Baby Pop qu'on a entendu tout à l'heure, c'est La Gadoue, c'est évidemment Poupée de cire, Poupée de son, qui sont des chansons anti-pop, qui sont des chansons qui ouvertement disent la génération yéyé lui plaît pas. D'ailleurs, la première chanson qu'il fait pour France Gall, c'est N'écoute pas les idoles. Alors que France Gall est censé justement être une idole. Et la chanson qu'il lui donne, c'est « N'écoute pas les idoles ». C'est tout à fait Gainsbourg.
Oui, excusez messieurs, il faut que j'envoie la pub.
Un baillard, ça vous change un homme. N'est-ce pas, monsieur Gainsbourg ?
Ginny, Ginny, je t'aime. La belle
aux yeux verts, verts de l'espérance, vers la tendresse, vers de l'amitié.
La tête que j'ai aujourd'hui, je la regretterai dans 10 ans. Alors, pour me tirer le portrait, j'ai choisi la pellicule couleur Konica.
Quand je me plante sur mon texte, Marie-Lou me corrige. Elle pointe son pindex. Correction express, tu piges.
Index, secoué, pressé, effacé.
Marie-Lou me trouve incorrect. Nouveau disque parfait.
Magie, magie! La nouvelle façon de souper! Tu veux looter pour ma louloute instantanée avec de l'eau que j'ajoute?
Gainsbourg et les pubs ici, les pubs de Bayard en 1980, Ginny en 83, Konica en 85, Pentex en 87 et Magie à l'instant en 1983. Quel chanteur pourrait faire autant de pubs aujourd'hui?
Moi, je dirais aucun, parce que il n'y a aucun chanteur aujourd'hui qui puisse porter autant de casquettes qu'on portait Serge Gainsbourg, à la fois auteur, compositeur, interprète, réalisateur, acteur, réalisateur de pubs, réalisateur de jingles, réalisateur de générique radio, parce qu'il avait même fait le générique de José Arthur sur France Inter.
Pop Club.
Donc c'est, je vois pas d'artiste aujourd'hui qui pourrait faire ça. Bien sûr, il y a pas mal d'artistes qui vivent grâce à la publicité, qui font pas mal de publicité à côté de leur disque. Mais Gainsbourg, je pense qu'il s'amusait à faire ça, il y prenait plaisir, et en plus de ça, souvent, il utilise dans un jingle, dans une pub, une idée qu'il réutilisera plus tard dans une chanson. Donc ça lui sert aussi de laboratoire, et puis ça lui sert aussi, ça lui servira à un moment donné à payer ses films et à pouvoir avancer dans le domaine cinématographique.
Le rapport avec la pub pour toi, Bertrand Dical?
Ben, c'est vrai que ça lui a permis pas seulement de payer ses films, ça lui a permis de gagner sa vie. Il a fait beaucoup de pubs, notamment pour la radio, dont un certain nombre sont perdus, semble-t-il, parce qu'on a, bon, c'est assez compliqué d'expliquer pourquoi, mais on sait qu'il a fait des pubs dont on a perdu la trace, parce qu'on a retrouvé la trace de paiement, mais il se trouve que Gainsbourg est aussi quelqu'un qui assume le fait d'avoir des problèmes d'argent, le fait de ne pas vouloir uniquement être un artiste avec un A majuscule. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il parlera si souvent de l'art mineur. C'est qu'il dit, moi, je suis pas un artiste, je suis un artisan, je suis comme mon papa, je gagne ma vie avec mon piano, je bosse, je suis au travail. Quand on voit le nombre de musiques, de navets qu'il a fait, alors c'est très bien d'écouter les 10 des musiques de films de Gainsbourg, mais quand il faut se taper les films derrière, c'est quand même parfois une vraie douleur, parce que il a fait ça pour gagner sa vie, et c'est aussi une des splendeurs de Gainsbourg. Mais il y a des artistes qui ont osé un peu la même chose que Gainsbourg, et un de ses héritiers direct, Alain Bachung, qui fait un tube avec Ma Petite Entreprise et qui a décidé de laisser utiliser Ma Petite Entreprise, et lui-même, son visage lui-même, il dit: j'ai écrit cette chanson pour un utilitaire.
Serge Gainsbourg, passé par la bande aujourd'hui.
Les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible cet air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème. Tu ne trouves pas, hein, semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette air-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem.
Requiem pour un con, chanson qu'il interprétera dans le film Le Pacha de Georges Lautner face à Jean Gabin en 1968. Un remix est réalisé par ses producteurs en 91, envoyé aux radios le 1er mars. Le lendemain, Serge Gainsbourg s'éteint chez lui à Paris, c'est ce que tu racontes, Bertrand. Est-il ou va-t-il passer à la postérité?
Bien, il est déjà passé. passé à la postérité.
Vous avez 25 secondes chacun.
Voilà, donc il a détruit ses œuvres picturales, il a détruit ses peintures. Apparemment, il a déclaré à certaines personnes, à certains proches, qu'il aurait aimé détruire aussi son œuvre musicale. Évidemment, c'était pas possible. Mais du coup, malgré lui, quasiment, il est passé à la postérité.
Bertrand Dical.
Je pense qu'il a accompli son rêve. Il voulait être un génie, il voulait être considéré comme un génie. Et c'est vrai que Gainsbourg est un cas unique, enfin, pas unique, il y a Rimbaud aussi, qui n'a pas eu le succès et qui n'est pas rentré au panthéon de son vivant. Et lui, il est devenu un génie après sa mort.
Tout Gainsbourg, 1002 pages, est publié dans la collection Jungle Doc et Gainsbourg Confidentiel aux éditions Prisma, 302 pages et un cahier de photos de 12 pages avec l'abécédaire indiscret de Gainsbourg. Fin de cette bande qui repasse demain avec Isla. Merci à Pierre Vallée. Merci messieurs.
Merci.
Merci.
Restez dans la bande via notre page Facebook, RFI.fr si vous n'êtes pas déjà, ou RFIMusique.com. Dans 30 secondes, le journal de Romain Ozoui. Salut.